un pas de côté.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'évasion touristique Un pas de côté. Un magazine d'évasion touristique en Vercors-Drôme et qui est réalisé donc en partenariat avec les offices de tourisme qui comptent 3 antennes sur le territoire. La première à Saint-Jean-en-Royan, sur la place de l'église, également à la chapelle en Vercors ainsi qu'à Saint-Nazaire-en-Royan. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Clémence pour l'office de tourisme Vercors-Drôme. Bonjour Clémence.
Bonjour.
C'est aujourd'hui déjà le numéro 47 pour l'édition d'octobre 2024 du Pas de Côté. Nous sommes heureuses de vous retrouver pour cette nouvelle édition automnale. Car oui, ça y est, c'est l'automne, n'est-ce pas Clémence?
Et oui, ça y est, c'est lancé. L'automne s'installe doucement et avec lui, la nature change de rythme. Les couleurs flamboyantes s'emparent des arbres, l'air devient plus frais et un calme presque mystique s'installe dans nos montagnes. C'est une saison particulière, pleine de contrastes, où chaque sortie en plein air révèle un nouveau visage du Royan Vercors.
Et parmi ces moments d'exception dont vous parlez, Clémence, il y en a un qui ne laisse personne indifférent.
Et oui, le brame du cerf, ce cri puissant et mystérieux qui résonne dans les forêts à la tombée de la nuit et qui marque le début d'un rituel ancestral. Le cerf se fait entendre pour attirer l'attention et imposer sa présence. Pour qui sait écouter et observer, c'est une expérience inoubliable qui rappelle que la nature, même à cette période, est pleine de vie.
Et aujourd'hui, on part en quête de nature, justement, avec Romain Ribeiro, Clémence.
Exactement, Romain Ribeiro qui nous emmène découvrir ce spectacle unique et nous dévoile le secret des sorties d'automne. Vous êtes prêts pour une immersion au cœur de la forêt?
On écoute tout de suite.
Un pas de côté.
Début septembre, ça marque la période du début de la saison de rut chez le cerf, donc on appelle plus communément le brame, mais ça emploie aussi le cri que le cerf va émettre pour à la fois attirer les biches, mais surtout pour dissuader les autres cerfs de ne pas s'approprier son harem, qu'on appelle aussi le rer, le terme un peu savant, mais c'est ce qu'on retient quand on parle du brame du cerf, ce son vraiment impressionnant. C'est une activité qui est assez marquante dans l'année, elle est souvent associée au plus grand spectacle que la nature puisse nous offrir en France, parce qu'on parle d'un animal qui est quand même massif, impressionnant, mais qui reste très discret le restant de l'année, malgré qu'il soit toujours présent. Très souvent, quand on parle du cerf, on associe ça au brame. Faut savoir que le restant de l'année, il se passe aussi des choses dans sa vie, mais ça sera surtout en automne qu'on va pouvoir profiter du comportement varié, des observations, et puis de la saison des amours, tout simplement. Ouais. Donc, il intervient début septembre en général, hein, et qui va se poursuivre tranquillement jusqu'en début, voire mi-octobre, suivant la météo, qui va influencer la chaleur des biches également.
Alors, vous aimez faire découvrir auprès du public, effectivement, ce fameux brame. C'est toujours cette période, comme vous le disiez, début septembre. Ça peut varier, des fois, être un peu plus anticipé ou plus tardif. C'est toujours ric-rac la même chose chaque année.
C'est très chronique, ça intervient en début d'automne pour la simple et bonne raison que le temps de gestation a un temps qui est défini chaque année, hein, c'est environ 7 à 8 mois, et cette reproduction permet en automne aux jeunes de naître au printemps, au mois de mai-juin, pour qu'ils aient des conditions de survie beaucoup plus favorables, hein, avec la chaleur, le retour de la nourriture, etc. Ouais. Et ensuite, il peut y avoir des décalages un peu plus tôt ou un peu plus tard, de notre point de vue, parce que dans la nature, il n'y a pas vraiment de règles, hein, comme ça, aussi figées, comme je disais, qui peuvent être influencées par les chaleurs, le froid, la pluie, etc. Sachant que cette année, on a des conditions qui préparent très très bien la saison parce qu'on a un froid qui est assez stable, assez régulier, avec beaucoup d'humidité. Et ça, en général, ça va plaire aux animaux qui vont commencer à être stimulés et actifs là.
Alors, la puissance du cri peut être déterminante pour les biches, pour justement donner un sens au cerf qui fait que, effectivement, ça devienne un peu les seigneurs, ils passent un petit peu au-dessus des autres. Et qu'est-ce qui fait que, qui marque un petit peu l'attrait pour les biches du cerf?
Le rer que le cerf va émettre durant le brame est pas forcément déterminant en matière de séduction pour les biches. Les biches vont plutôt avoir tendance à sélectionner un mâle plutôt par son caractère, qui aura tendance à être dominant pour les grands cerfs, hein, qui vont chercher une place de brame avec un harem de biches à constituer, et puis ensuite gagner son jeu de prise de pouvoir, puisque ça entraîne une compétition. Au sein d'une population de cerfs, on va avoir beaucoup plus de femelles que de mâles, et qui ont une fenêtre de disponibilité sexuelle très fermé. Il faut savoir qu'une biche est reproductrice seulement 1 à 2 jours par an. Donc comme la fenêtre est fermée, le cerf mâle a tout intérêt à avoir un maximum de biches dans son harem pour pouvoir entreprendre un peu de l'accouplement. Seulement, ça va entraîner une compétition puisque les autres mâles vont pas attendre à la queue leu-leu leur tour. Et donc, ça entraîne des conflits. Oui. Pas tout de suite physique, parce que dans la nature, on évite au maximum de ne pas se blesser. Donc ça va entraîner des joutes verbales. Et le brame, c'est surtout ça, en fait. C'est des cerfs qui vont se jauger comme ça à la voix. Parfois, ça ne suffit pas. Et ça va un peu plus loin, et là, un combat peut intervenir. Des combats qui sont souvent courts, mais intenses. Le cerf le plus faible va se retirer automatiquement, et puis laisser la place au vainqueur.
Alors parlons des sorties, et notamment encadrées par vos soins. Comment cela se déroule? Il y a donc des secteurs qui sont visés, des plages horaires également. Aussi, les explications avant d'observer. Vous avez tout un petit programme?
Alors, pour pas participer au dérangement du cerf sur l'ensemble du territoire, toutes les sorties se déroulent sur le plateau d'Ambelle, sur différents secteurs qui sont adaptés selon la météo, selon le nombre de personnes, puisque c'est une thématique qui exige des groupes assez limités. Pour être un minimum intrusif, sachant que le but, ce n'est pas de voir à tout prix le cerf. Le déroulement de la sortie, c'est dans l'ordre. On commence par une petite introduction de l'espèce, avec une présentation de crâne, de bois, etc. L'animal dans toute sa splendeur. Et ensuite, on va se diriger dans son milieu naturel, et puis se poster sur un point d'observation stratégique. Et là, on va se faire oublier, pour profiter de l'écoute, peut-être de l'observation, qui n'est jamais garantie, c'est un animal sauvage en milieu naturel, tout en continuant à parler du suivi qui est réalisé sur le Vercors, donc des cerfs connus, ceux qu'on peut éventuellement voir, les commenter, parler un peu de leur historique, etc. Et il s'ensuit au retour, une marche de nuit, au crépuscule, pour profiter de cette ambiance, puisque la nuit, comme on disait tout à l'heure, la tombée de la nuit, ça sonne souvent l'alarme pour les cerfs, où ils vont bramer un peu plus fort, quoi.
Alors, le calendrier des sorties, comment ça se passe pour vos propositions de sorties? Vous avez donc établi un petit calendrier proposé au public?
Tout à fait. Il y a différentes dates proposées sur toute la période du brame. Donc, simplement à retenir, c'est des sorties en demi-journée, le soir, pour le mois de septembre, entre 17h et 21h. Donc, je rappelle au plateau d'Ambelle. Et en octobre, de 16h à 20h, sachant que c'est tous les mercredis et samedis, excepté le vendredi 27 septembre, où une sortie a lieu. Cette année, il y a une nouveauté aussi, c'est que bien souvent, après les sorties, on organise avec les copains de l'hôtel Quartier Libre, des projections qui sont en fait un petit film que j'ai réalisé d'une quinzaine de minutes, qui présente un petit peu l'activité de la faune du Vercors sous les quatre saisons. Ce qui est original, c'est que toutes les images qui sont dans ce film ont été prises avec des pièges photos. Donc ça permet d'éduquer les gens aussi autour de l'usage des pièges photographiques, comment on s'en sert, pourquoi, qu'est-ce que ça peut apporter aussi comme information. Donc voilà, si certains veulent aller un peu plus loin dans la découverte du sauvage, on vous invite à l'hôtel de Quartier Libre pour ces projections qui ont lieu un vendredi sur deux à partir de ce vendredi 13 septembre.
Pour vous contacter, Romain, comment s'y prend-on?
Alors, pour avoir toutes ces infos, le plus simple pour tout le monde, c'est de se rendre sur mon site internet, donc enquête-de-nature26.com, et de suivre mon activité sur ma page Instagram, donc Enquête de Nature, où là, il y a du contenu un peu média, vidéo, entre guillemets, qui est publié assez régulièrement, notamment sur le cerf à cette période.
Alors là, on évoque le brame du cerf, mais Enquête de Nature, c'est tout un tas d'autres observations tout au long de l'année, finalement.
Oui, c'est à la fois des suivis et des sorties, des suivis qui permettent de collecter des résultats, des données, pour les partager au public à travers des sorties découvertes sur toute l'année. Donc en fonction des saisons, les thématiques évoluent. Là, en ce moment, on a parlé du brame, puisque c'est le spectacle du moment. Il y a des sorties loups aussi, qui sont réalisées toute l'année, où là, on se rend sur le territoire d'une meute suivie pour faire du pistage et trouver des indices de présence. Ça peut aussi être des sorties ornithologie, ornithologiques, sur l'écoute des chants d'oiseaux, l'identification des espèces, plutôt au printemps. Il y a plein de choses à faire. On a de la chance d'être dans une région qui est très diversifiée aujourd'hui, puisqu'il y a quelques dizaines d'années, on n'avait pas forcément toute cette biodiversité. Donc c'est aussi toutes ces choses-là qui demandent à être prises en compte. Si on prend un peu de recul, on se rend compte que on est quand même dans une région qui est qui est vraiment top pour tout ça.
D'accord, vous dites qu'il y a plus de biodiversité maintenant qu'auparavant ?
Oui, alors quand je dis auparavant, moi je m'arrête aux années 50, 60, ou jusque ces années-là, oui. Dans les milieux ruraux et montagnards, la biodiversité n'existait plus du tout, tout simplement. Là, on parle du cerf. Les cerfs qui sont ici ont été réintroduits depuis le parc de Chambord en 1959. Autrement, l'espèce avait complètement disparu du massif. Même chose pour le bouquetin, les marmottes, les vautours. Et puis le retour naturel d'autres espèces, comme le loup, par exemple, l'aigle royal. Donc plein de petites choses comme ça qui ont permis, grâce à nos espaces variés et plus ou moins sauvages, d'abriter de la faune assez riche et diversifiée. Hein.
Un pas de côté.
Merci donc à Romain Ribeiro, le guide naturaliste d'Enquête de Nature, qui répondait aux questions de Patrice. Il évoquait ce traditionnel temps fort automnal que représente le brame du cerf sur les hauteurs du Vercors, et il nous détaillait les différentes sorties qu'il propose au public, notamment donc à cette occasion du brame du cerf. Pour plus d'informations sur ces sorties et pour contacter Romain, rendez-vous sur son site internet enquêtedenature26.com. Et pour notre deuxième sujet, on s'intéresse à la vannerie paysanne avec Emmanuelle Brumelot. Elle est artisane vannière et elle est installée à Saint-Julien en Vercors. Elle vous propose des stages pour apprendre la vannerie avec son association L'Oserait du Possible. Sarah est allée à sa rencontre. On écoute.
Un pas de côté.
Les plus anciens vanniers, ce sont les oiseaux. Hein. Quand il n'y a qu'à les voir travailler, c'est eux les merveilleux vanniers qui nous ont... montrer un peu les techniques.
Qu'est-ce qu'on a dans cet atelier qui est assez immense ?
Eh ben, les remplis d'osier. Donc l'osier, c'est du saule et c'est le rejet de l'année du saule qui est coupé en hiver, hors sève. Donc moi, je suis installée en culture d'osier. On appelle ça l'osiericulture. Donc l'osier est récolté en hiver et après on le trie. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On le trie par variété, par longueur. Après on en fait des bottes. Ce qu'on voit ici aujourd'hui qui est plein dans la grange, c'est l'osier qui est sorti du champ. Une fois qu'il est récolté, il est lié. Après il est remonté ici dans cette grange. Et après, on le trie. Alors, pendant l'hiver, on le trie pour l'osier vivant. C'est-à-dire qu'on fait des structures, avec l'osier et on le remet en terre. C'est-à-dire qu'il va reprendre. On appelle ça l'osier vivant. Il y a une cabane au village que j'ai fait pour l'école. Il y a une haie aussi. Donc, l'osier reprend vie. Et sinon, maintenant, on est en train de faire le tri pour l'osier sec qui va être mis à sécher à plat dans la grange. Et après, donc, il est mis en bottes par longueur et par variété, donc ce que tu vois là, le râtelier, est mis à sécher à plat. Et une fois qu'il est sec, c'est-à-dire fin août, il est prêt à être vendu ou utilisé par moi-même pour mes stages et pour ma propre production, parce que je suis aussi vannière.
Comment la passion de l'osier vous a attrapé ?
Eh ben oui, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment une passion. Moi, en fait, j'ai passé ce qu'on appelle la capacité agricole en 2005 pour m'installer en polyculture élevage. Et puis finalement, le hasard des rencontres dans la formation a fait que j'ai repris une petite parcelle d'osier au début sur le Vercors. Et puis après, la vie m'a amenée à retrouver une amie qui était vannière et qui avait planté une parcelle d'osier en bas, à côté de Saint-Marcellin, à Saint-Véran exactement. Donc au début, je l'ai aidé à reprendre cette parcelle. Et pour finir, donc, je me suis installée avec l'osier. Et petit à petit, je l'ai repris toute seule. Et j'en ai planté aussi un peu sur le Vercors. Il y en a aussi ici aux Elbères.
Est-ce que c'est une culture qui s'adapte à la moyenne montagne ?
Très bien. Le saule, en fait, on en trouve partout. Autant dans les milieux désertiques qu'en montagne. Et le seul inconvénient qui peut arriver, c'est qu'il soit couché par la neige. Mais sinon, on est plutôt, nous autres, aux agriculteurs, on recherche pas forcément la longueur, mais plutôt des brins fins. Et au-delà de 2,20 m, c'est beaucoup moins intéressant pour nous.
Dès qui vous avez appris cet art ?
Eh ben, d'autres aux agriculteurs. En fait, la personne avec qui que j'ai accompagnée au début pour reprendre l'oseraie, elle m'a montré comment elle faisait. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer d'autres osiericulteurs, même si on est très très peu nombreux. On est en France, on n'est même pas 100 osiericulteurs. Après, on est plus nombreux en vannerie professionnelle. Et du coup, on s'est mis en réseau et ça s'appelle, c'est un collectif qui s'appelle l'Oserait du Possible. Donc là où on est quelques osiericulteurs, mais principalement des vanniers et vannières, et où on peut se rencontrer régulièrement pour parler du métier. Ça nous met en lien et c'est très intéressant. C'est un réseau qui est sur toute la France. Donc bon, il y a une majeure partie de professionnels qui sont sur le Sud-Est. Mais voilà, donc on a des temps où on peut se retrouver et surtout on est en lien, ce qui nous permet de pouvoir partager nos problématiques. Parce que il y a deux grands pôles de culture d'osier qui sont la Loire, en fait, dans la Touraine exactement, et puis la Haute-Marne où il y a l'École nationale de vannerie à Faye-Billot. Mais sinon, sortie de ces deux, la production d'osier, ce que je disais au départ, reste très marginale. Et encore plus sur le Vercors, où c'est essentiellement de l'élevage bovin. Et sur ce collectif, on peut trouver par département les informations sur des vanniers qui proposent des stages. Et là, vous retrouvez les dates de stage avec les thématiques. Et aussi les prises en charge éventuelles pour les formations et d'autres activités. Parce que c'est vrai que sur le Vercors, l'osier, c'est une production très originale. Personne ne fait de l'osier. Et en Drôme, je suis la seule.
Un pas de côté.
Donc rendez-vous sur le site oseraitdupossible.fr pour découvrir les prochains stages de vannerie. Les prochains sont le 9 et 10 novembre à Saint-Julien en Vercors. Et retrouvez les créations d'Emmanuel chaque samedi au marché de la Chapelle en Vercors.
Et pour terminer cette édition automnale du pas de côté, nous vous proposons maintenant un détour du côté de l'auberge de Léoncelle. Elle a été reprise au printemps 2024 et transformée donc par les nouveaux repreneurs. On écoute Tiphaine nous détailler ses nouveautés au micro de Céline.
Un pas de côté.
L'an dernier, ça s'est passé au moment d'un dîner, tout simplement, où Simon et moi, on est les porteurs du projet. Et on se questionnait sur notre place en tant que salarié dans nos différentes expériences professionnelles. Et au fil de la discussion, on comprenait notre complémentarité, en fait, que donc Simon avait vraiment envie de faire de la cuisine et de la cuisine avec des produits locaux, faire vivre vraiment l'économie locale, tout ça, ça l'intéressait, puis il avait déjà un très bon réseau. Et moi, j'avais toute la partie accueil, tourisme, réseau touristique, accueillir les gens au niveau local aussi. Et donc, de fil en aiguille, on s'est posé la question d'avoir un établissement comme celui-ci. Et on avait du mal à trouver, à se mettre d'accord tous les deux sur lequel. En fait, on regardait les annonces comme ça, on savait lesquels étaient en vente à ce moment-là. Donc, à chaque fois, ça n'allait pas. Moi, j'étais non, c'est pas assez... Il n'y a pas d'extérieur ou il n'y a pas une belle terrasse ou l'accès n'est pas comme si... Enfin, j'avais un cahier des charges assez précis. Et pour l'anecdote, en fait, on a pris en exemple l'auberge de Léoncelle qui était en fonctionnement avec Isabelle et Catherine, les anciennes propriétaires. Et on s'est mis d'accord sur ça. On fait, bah oui, ça c'est parfait. Ce serait ça. Ce serait ce type d'idéal, de structure. Quoi. Voilà. Deux semaines après, il allait manger là-bas. Et Isabelle lui a annoncé qu'elle souhaitait céder. Donc là, il m'a rappelé en disant, bon, bah, ce coup-ci, t'as pas d'autre choix que de m'accompagner visiter parce que ça remplit tous les critères vu que c'est l'auberge de Léoncelle. Donc on est allé visiter comme ça.
C'est incroyable, ouais, cette histoire. Des fois, l'alignement des planètes, genre, j'aimerais bien quelque chose comme un peu l'auberge de Léoncelle. Et puis, bim.
Bim, deux semaines après, elle était sur un plateau.
Bon, ça se refuse pas, alors, cette opportunité.
Et ben voilà, on a visité, on a eu un coup de cœur. De toute façon, Isabelle et Catherine ont fait un travail assez remarquable de dynamisme. Elles ont redynamisé, elles ont fait beaucoup de travaux, elles ont fidélisé une clientèle. Enfin, tous les feux étaient au vert à ce niveau-là. Et nous, on a vu, beaucoup d'opportunités sur la situation. Et ça répondait vraiment à tous nos critères et à l'esprit qu'on voulait faire. Notre projet, c'est que les locaux puissent être aussi... attirés et intéressés par notre établissement, par la qualité des produits, l'ambiance, qu'ils aient envie de faire une petite pause nature et de se dire tiens, Léoncelle, en fait, ça a été repris et qu'ils aient envie de monter. Mais en fait, on a besoin de tout le monde. Vu qu'on est saisonnier, il y a besoin aussi du tourisme et c'est aussi pour ça que les feux étaient ouverts pour se lancer. Hein, c'est que il y a vraiment une bonne situation avec le cyclotourisme. Enfin, il y a les vélos, les motos, les randonneurs, les parapentistes, l'abbaye de Léoncel qui attire beaucoup, avec leur programmation estivale de concerts aussi. Ça fait venir pas mal de gens. On voit aussi qu'on a une clientèle tournée sur Valence, qui viennent un peu au vert de ce côté-là du Vercors.
Oui, l'école de Tourniol, la plaine de Valence, Romans, ça marche.
L'école de Limouches, tout à fait. Donc ça, c'est, enfin, on est ravis de les accueillir, mais c'est vrai qu'on aimerait renouer avec la population locale et tout le Royaume Vercors un peu plus large, quoi.
Et si on met le focus un peu sur justement ce que vous proposez en termes de produits, tu disais circuit court, alors c'est aussi assez tendance en ce moment, mais c'est important de le mettre en valeur. Vous ne fonctionnez qu'avec des produits qui ont quelques dizaines de kilomètres, qui sont à quelques dizaines de kilomètres de Léoncel.
Ouais, c'est ça l'enjeu. Après, c'est au maximum, parce qu'il y a des produits qu'on ne peut pas trouver en local, ou pour une première année, on ne peut pas se permettre financièrement, sur certaines denrées, avoir du 100% local, parce que ce n'est pas les mêmes coûts d'achat. Mais dès qu'on peut, on le fait, et surtout, on a envie de passer en direct producteur. On évite les intermédiaires. Mm-hmm. Donc, on a une tournée comme ce matin, le jeudi. Après l'interview, je vais aller à la ferme du Sabot à Aubrive récupérer du fromage. On travaille avec Jacopin pour notre pain. On a fait une recette, grâce à Bastien, une recette sur mesure. Et grâce à Simon, qui a un peu poussé l'idée. Les salades, elles viennent de la ferme intégrale à Austin. Donc, on a toujours notre petit circuit avant de monter à l'auberge. En plus, ça répond aussi, pour le coup, au fait qu'on soit assez... Enfin, on est en milieu rural et on est assez éloigné. Donc, même les fournisseurs habituels des restaurants sont pas forcément OK pour monter. Ça leur fait des grands détours. Donc, en fait, nous, on a mis en place notre petit circuit. Et on fait ça avec les légumes. On a trois maraîchers, Saint-Latier, Saint-Thomas et Cheville. On fait ça, le poisson, on prend exclusivement pour le moment de la truite avec la Saône et Paola à Saint-Jean. De temps en temps, on fait quand même des suggestions du week-end qui sortent de notre carte, là plus pour se faire plaisir. Donc ça arrive qu'on s'éloigne, mais globalement, et puis surtout la viande. Comme Simon, il est cuisinier boucher de formation, on achète de la viande en direct. Donc il achète, alors ça peut surprendre, il achète une vache en entier. Donc on a 330 kilos de viande qui arrivent d'un coup. Mais il la valorise de A à Z et il passe en direct producteur pour le bœuf, pour le veau et pour le porc. Le porc qu'on a à moins de 10 kilomètres au col des Limouches.
Donc tout ça très local, local, on peut pas.
Ouais. Là on fait notre propre charcuterie maison avec du porc de Léoncel, donc pour le coup ça c'est un peu notre fierté. Ouais.
Et puis il y a aussi, tu le disais, le cadre, l'ambiance et notamment une envie que les locaux viennent, et c'est pour ça que vous allez rester ouvert cet hiver. La saison touristique est en train de se terminer. Ça a bien fonctionné, à ce que j'entends, même si le printemps était un peu maussade. Et vous allez proposer des banquets, des repas à thème et des grandes tablées un samedi soir par mois. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça, c'est la nouveauté. On essaye des choses. On va être ouvert tous les week-ends, comme les précédentes propriétaires. Plus les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël, on repasse en 5 jours sur 7, mais sinon c'est tous les week-ends. Et pour créer du lien et puis voilà, essayer, se faire plaisir et créer aussi de la convivialité et des rencontres, on a pensé à ce qu'on a appelé donc les banquets de l'auberge. Le but, c'est d'être ouvert le soir, un samedi soir, pour essayer de regrouper les personnes sur une même date. Et on ne va pas dresser individuellement les tables, elles vont être mises bout à bout. Pour pouvoir s'asseoir comme on le souhaite. Et l'idée, c'est un repas unique et les gens viennent récupérer l'assiette au bar et vont ensuite s'installer et se lèvent pour une consommation, puis repartent. Et comme ça, c'est très déambulant dans l'auberge.
Oui, quand on dit banquet, on pense vraiment à une grande tablée, pouvoir bouger entre le fromage et le dessert pour aller parler avec quelqu'un d'autre.
Voilà, reconnaître quelqu'un, se déplacer, c'est l'idée. Voilà.
Et donc des repas à thème avec autour de la viande, j'ai l'impression.
Alors le premier, oui, on fait cochon de lait de Léoncel avec l'éleveur avec qui on travaille, Monsieur Vignon. Et par contre, en décembre, on change complètement. Alors, pour le coup, c'est pas très local, mais on avait vraiment envie de se faire plaisir. On fait des fruits de mer, puisque dans le Royan, ça nous manque un peu. Et après, il y aura 3 autres dates début 2025, et il y aura pas forcément que de la viande. On a, je peux pas encore vous dire, on n'a pas encore bien validé les 3 autres menus. Mais le but, c'est qu'il y ait quand même, de toute façon, une solution toujours pour les personnes qui mangent pas de viande.
Oui, j'allais dire pour les personnes végétariennes. Ouais. Est-ce que il y a quand même toujours quelque chose qui est pensé, réfléchi?
Oui, ouais, pour que ça puisse pas empêcher une famille de venir, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a un régime alimentaire spécifique, il faut surtout pas hésiter à le dire à la réservation. Et nous, on le note bien pour prévoir.
Du coup, plutôt réservé, on invite les auditeurs, auditrices, si ça vous intéresse, c'est Banquet de l'Auberge à Léoncel, alors Cochon de lait en octobre, Fruits de mer en décembre, et puis après en janvier, en février, en avril, d'autres...
Ça vient.
D'autres choses. Il vaut mieux réserver, vous contacter. Vous avez une grosse capacité d'accueil pour ces banquets?
On est entre 60 et 70, après ça va dépendre du menu. Par exemple, le tout premier, le cochon de lait, bah, c'est un nombre de parts qu'on peut faire. Donc là, on est plutôt situé entre 40 et 50 personnes. C'est pour ça que la réservation, elle est vraiment conseillée. Après, pour les fruits de mer, voilà, ça peut aller jusqu'à entre 70 et 60-70. C'est la capacité.
Un pas de côté.
Et vous avez donc maintenant toutes les informations sur la réouverture de l'auberge de Léoncel grâce à ses échanges avec Tiphaine, qui répondait aux questions de Céline. Avec notamment, je vous le rappelle, cette nouveauté, ce sont les banquets proposés un samedi soir par mois, entre les mois d'octobre et le mois d'avril, avec des grandes tablées et un service à l'assiette au bar qui sera ouvert à cette occasion jusqu'à 23h. Et puis tant qu'à aller jusqu'à Léoncel, Clémence, est-ce qu'il y a d'autres incontournables à découvrir dans ce petit village ?
Complètement, on peut visiter l'incroyable abbaye de Léoncel, ouverte tous les jours de 8h à 11h.
Voilà, n'hésitez pas donc à combiner ces deux rendez-vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin du magazine Un pas de côté, le magazine d'évasion touristique en Vercors-Drôme. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radioroyan.fr. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux reportages inspirants. Merci Clémence.
Merci, bonne journée.
Un pas de côté.